Pensez à l'équipe.
Croisé, court, gagnant.
Carrément tennis.
Super attaque de couloir.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour une heure consacrée au tennis, carrément tennis en direct de Roland-Garros. Alors en ce moment, vous n'avez pas le droit qu'à une heure dans la semaine de tennis puisque c'est toute la journée sur notre antenne, mais on ne déroge pas à nos bonnes habitudes. L'émission carrément tennis, on va revenir sur les premiers jours de Roland-Garros, le cinquième aujourd'hui avec la fin du deuxième tour, un programme encore riche et des Français, ma foi, qui brillent pour l'instant puisque notamment chez les garçons, Richard Gasquet, Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga se sont qualifiés pour le troisième tour, imité peut-être aujourd'hui, sûrement même en tout cas par un autre Français puisqu'il y a déjà un affrontement entre Jérémy Chardy et Gilles Simon programmé en fin de journée sur le central. Pour ceux qui viendront à Roland-Garros aujourd'hui, ils verront peut-être Kim Clijsters qui est en train de jouer, la Belge sur le court Philippe Chatry et Robin Söderling également sur le court, Suzanne Lenglen, le double finaliste des deux dernières éditions. À suivre également un très beau match sur le central en milieu d'après-midi entre Maria Sharapova, la Russe qui fait partie des outsiders de ce tournoi, face au jeune phénomène français de 17 ans Caroline Garcia, qui n'a pas froid aux yeux. On va en parler de cette jeune fille ce matin dans Carrément Tennis. On reviendra donc sur le parcours de nos Frenchies, sur la grosse frayeur ou pas selon les observateurs de Raphaël Nadal, quintuple vainqueur ici tenant du titre au premier tour face à John Isner, et ce combat en 5-7 de plus de 4 heures. Faut-il s'alarmer pour Raphaël Nadal ou pas? Il va rejouer hein, d'ailleurs aujourd'hui Raphaël Nadal, ce sera sur le court Suzanne Lenglen face à son compatriote Pablo Andujar. Les autres favoris pour l'instant se promènent notamment Novak Djokovic et Roger Federer qui jouent vraiment très peu de temps et qui économisent leur force. Djokovic a même profité hier de l'abandon du Roumain Victor Anescu. Et puis chez les filles, Marion Bartoli qui s'arrache. On a du mal à trouver une favorite pour ce tournoi, mais sachez que les deux finalistes par exemple de l'an dernier, Stosur et Schiavone, eh bien pour l'instant ont fait une très très bonne entrée dans ce tournoi.
Like RTL équipe, carrément tennis.
Roland Garros à vivre sur RTL, l'équipe, votre radio du sport et de l'info, durant toute la quinzaine, tous les jours en fil rouge dans vos émissions traditionnelles et en intégralité dans les autres moments de la journée. Vous ne manquerez rien, bien sûr, de cette deuxième levée du Grand Chelem de la saison. Il est partout à Roland Garros. Sur le court, Suzanne Lenglen, il y a quelques minutes pour faire la présentation du match Söderling-Ramos. Au micro et en costume, il est magnifique si seulement vous le voyez. Et puis au micro, il est toujours aussi bon. Julien Varlet, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous, vous êtes limite trop gentil.
Ah, je n'entends pas Julien Varlet.
Ah,
ça va pas être très pratique si on peut pas se parler. Alors on vous explique tout, parce que nous on ne cache rien à nos auditeurs sur RTL l'équipe. Nous sommes dans deux cabines séparées pour vous faire vivre cette émission, parce que les cabines sont assez petites à Roland-Garros, parce qu'il y a plus de 900 journalistes accrédités, donc il faut caser tout le monde. Myrtille et moi-même qui est à mes côtés, bonjour Myrtille.
Bonjour Eric, bonjour à
tous. Tout de rose vêtu pour chasser les nuages qui aujourd'hui arrivent quand même. On n'est pas à l'abri d'un petit orage. Hein.
Ouais, une petite fraîcheur.
Attention aux premiers orages, il fait très chaud depuis le début de la quinzaine. Mais là aujourd'hui, mes Myrtilles, elle a mis du rose pour nous donner de la couleur et du soleil dans cette émission et sur cette antenne. Julien Varlet et Clément Grèze, eux, sont dans la cabine du cours. Philippe Chatrier.
Bonjour. Alors, à tous.
Ça va messieurs?
Ça va pas mal.
On
ça
a
va
eu
pas
peur.
Mal.
Et vous savez quoi? On a été comme Nadal, on s'est fait une grosse frayeur.
C'est ça, vous étiez quasiment mené de 7-1.
Parce que ce n'est pas que le talent de Myrtille n'aurait pas permis de combler une heure tout
moi
seul,
si
mais ça aurait été
dire.
Beaucoup plus ennuyeux qu'avec les analyses pertinentes de Clément Grèze et de Julien Varlet. Vous avez Carole Bouchard dans le coin, vous lui avez fait coucou, elle est très occupée.
Non, Carole est très occupée, elle suit le match entre Kim Clijsters et Arantxa Rus. Arantxa Rus qui a choisi la jupe la plus courte du circuit hein, aujourd'hui
c'est
pour défier
Clément,
Kim Clijsters.
C'est pas une jupe, c'est une ceinture, on dit dans ce
c'est
cas-là.
Une ceinture.
Alors
exactement.
Attention, ça avait valu quelques problèmes à Alizé Cornet, les jupes trop courtes et les décolletés trop plongeants.
Ah bon?
Ben oui,
ah voilà, c'est pas un problème dernière. De décolleté, hein, mais c'est très clairement un problème de jupe.
Oh bah vous savez, que... sans être méchant, pour Alizé Cornet, c'était pas trop non plus un problème de décolleté, mais vous rappelez que l'année dernière, elle avait
oh
été
non,
embêtée.
Mais, trop méchant.
Mais non, pas du tout. L'année dernière, elle avait été embêtée parce que sa tenue, avait été... vous vous rappelez
oui,
de cette histoire
oui,
elle avait été jugée trop sexy.
Oui, oui.
Ben oui, non, mais oui. C'est pas une blague.
Comme si on n'avait pas entendu ce que vous disiez.
C'est pas
avant.
Une blague.
Oh là là, je te
bon,
jure.
Allez, revenons à nos moutons.
C'est vrai qu'Arantxa Rus, elle est un petit peu plus sexy que Kim Clijsters.
Et vous savez pourquoi elle s'appelle Arantxa?
Bah, parce que j'imagine que ses parents étaient fans d'Arantxa Sanchez.
Merci.
Bah oui, c'est ça.
Voilà. Donc il y a des gens qui étaient fans d'Arantxa Sanchez.
Ah ben,
c'est l'info,
bien sûr.
C'est l'info de ce 26 mai. Pardon ?
Fallait absolument qu'elle joue au tennis alors.
Ah bah oui, parce que là c'était obligatoire.
Bah, d'un côté, c'est drôle parce qu'elle est néerlandaise, elle s'appelle Arantxa et son nom de famille c'est Rus.
Dites donc Clément Grèze,
c'est quand même une fille plutôt internationale.
Dites-moi Clément, vous avez mangé du clown ce matin?
Je suis pas sûr.
Bon, allez, on attaque sérieusement cette émission.
Ça aurait été un garçon, il aurait pris Biello.
Biélorusse. Ouais, vous êtes en pleine forme les deux.
Toujours espagnol.
Il y a des produits illicites dans la cabine du Kung Fu Châtrier ou
Non, mais j'avoue que je suis quand même debout depuis très tôt, donc je commence à craquer déjà.
Je vous rappelle que vous n'avez même pas laissé de cerises à l'eau de vie avec Benoît Mélin l'an dernier dans la cabine.
Vous avez fait le petit déj rillettes vin rouge ou quoi ce matin?
Non, pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Non, il a la fricadelle directement, le nordiste. Attends, tu rigoles le matin. Attention à l'huile qui tache sur le costume.
Palette à la
diable. Vous étiez très bien ce matin, Julien, je tiens à vous le dire pour la présentation du match Söderling-Ramos. Bon, je voudrais qu'on s'intéresse à nos Français en tout premier lieu. Julien, Clément, Myrtille, avec les qualifications hier de Joe Wilfried Tsonga, de Gaël Monfils et de Richard Gasquet pour le troisième tour. Alors on commence par qui? J'ai envie de commencer par Richard.
Ah bah c'est étonnant.
Ah, c'est mon petit chouchou, attendez, pour une fois qu'il nous fait tant plaisir. J'ai dit en début de saison, souvenez-vous, qu'il serait dans le top 10 à la fin de l'année. Et je commence à avoir confiance en mon pronostic. En tout cas, ce qui me fait plaisir, Julien, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, c'est que Richard Gasquet est au troisième tour. C'est seulement la deuxième fois, Roland-Garros. La première fois, c'était en 2005. Et surtout, il est au troisième tour en jouant un beau tennis et en ayant une attitude sur le court exemplaire.
Oui, et puis je trouve même que c'est communicatif, cette envie qu'il a de jouer. Il est heureux, il est content, il développe du beau tennis. Il a eu un match pas évident hier contre Granollers. Il a réussi à retourner la situation de son côté alors qu'il était mené 1-7-0. Et derrière, il a changé un petit peu tactiquement parce que lors de la première manche, il était très loin. Donc c'est moi je trouve que pour l'instant, tout est positif pour Richard. J'ai encore vu ce matin Seb Grosjean au petit déjeuner. Et voilà, tout se passe bien, il est bien, il est... Puis il ne se met pas autant de pression qu'il a pu se mettre les années précédentes. Donc maintenant c'est contre Thomas Bellucci. On n'en parle pas énormément.
On va en parler parce que tout le monde évoque ce huitième de finale à venir contre Novak Djokovic. Et attention à Thomas Bellucci, on va y venir juste avant. Myrtille, je voudrais qu'on revienne sur les deux premiers matchs de Richard Gasquet. Parce qu'on le verra par rapport peut-être à un Tsonga ou à mon fils, qui, soyons honnêtes, ont quand même eu un tirage plutôt favorable pour les deux premiers tours. Ça va même continuer à mon avis pour Gaël Monfils. Richard Gasquet a eu Stepanek, joueur piégeux au premier match. Il a gagné en 3-7 sans perdre une seule fois son service, en défendant bien les balles de break au premier. Et Granollers, un faux espagnol terrien, qui n'est pas du tout terrien parce que c'est un bon joueur de double, qui est capable de faire service volé, qui est solide, qui était complètement différent. Et Richard Gasquet a abordé les deux matchs vraiment avec intelligence et surtout sans renier son tennis offensif. Plus de 50 coups gagnants encore hier.
Non, mais Richard, il a été impérial. Effectivement, quand il met en place ce jeu offensif, il est parfait. Il vient conclure au filet. Son revers, ce fameux magnifique revers à une main, il est très très efficace ici. Et surtout, personnellement, je trouve que physiquement, Richard, c'est là qu'il est vraiment très très bon cette saison. On parle souvent du fait qu'il reste trop loin sa ligne de fond. Il a encore ce petit travers de temps en temps, mais beaucoup moins. Et il court remarquablement. Et vous soulignez, Eric, que c'était en 2005, la fois précédente, que Richard était arrivé ici au troisième tour. C'est vrai. On notera qu'en 2005, c'était l'année où il avait déjà battu, c'était à Monte Carlo, Roger Federer. Cette année, il l'a battu à Rome. Il a été demi-finaliste. Alors, on ne va pas le vendre trop beau, trop grand tout de suite, Richard, mais franchement, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu évoluer à ce niveau.
Clément Grèze, est-ce que ça signifie que Richard Gasquet, puisqu'il a réussi la même chose en 2005, a besoin d'être bien dans sa tête et dans son tennis, un peu comme tous les autres, j'ai envie de vous dire, mais peut-être lui particulièrement pour pouvoir jouer libéré et pouvoir jouer ce tennis qui est le sien, en fait, tout simplement.
On sait évidemment que Richard Gasquet, il a besoin de conditions psychologiques préalables à son entrée dans un tournoi du Grand Chelem, et notamment Roland Garros, qui soit particulièrement bonne pour pouvoir développer son meilleur tennis. Néanmoins, je voudrais revenir sur deux petits trucs. Le premier, c'est qu'il y a toujours ce revers, mais moi je trouve qu'il a énormément progressé en coup droit, notamment. C'est un coup qu'il a beaucoup bossé. Et
disons qu'il a retrouvé son coup droit.
Voilà, il le lâche beaucoup plus et c'est beaucoup plus intéressant. Je l'ai vu faire quelques points gagnants, véritablement foudroyants avec ce coup droit contre Granollers hier. Néanmoins, je trouve un petit peu inquiétant quand même, dans la perspective d'un superbe parcours de Richard Gasquet, cette perte du premier set contre Granollers, parce que je me dis que contre Thomas Bellucci, qui est un joueur dont on va sans doute reparler évidemment dans ce carrément tennis, mais ça pardonnera pas. Il y aura en face de lui quelqu'un qui est beaucoup plus solide, qui est un petit peu plus habitué à ce tournoi de Roland-Garros, à faire des perfs notamment sur ce tournoi. Et c'est quand même typiquement l'adversaire que personne ne connaît, à part bien évidemment les gens du tennis, mais qui est très très bien classé, qui a un excellent tennis et qui peut poser énormément de problèmes à Richard Gasquet. Et je me dis que voilà, avoir perdu ce premier set contre Granollers, c'est signe quand même d'une forme de fébrilité. Il est un petit peu plus tendu que ce qu'il veut bien nous dire depuis 15 jours et depuis notamment sa performance.
Alors je vais vous contrer tout de suite, mon cher Clément Grèze, avant d'écouter Richard Gasquet, avant de parler de Thomas Bellucci. Ok, il a perdu le premier set hier. Il a eu des balles de break qu'il n'a pas su convertir en début de match, Richard Gasquet. Derrière, on aurait pu se dire, aïe, ouais, on l'a vu un peu trop beau contre Stepanek. Là, il perd tout de suite 2-3 fois son service. Il perd la première manche. Ça va être galère. Il va baisser la tête. Il va reculer. Il va attendre.
Ah non, mais dans l'attitude,
derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Derrière, il colle 3 sets ultra solides. En reprenant les choses en main tout de suite, quoi.
Non, mais dans l'attitude et dans le comportement, effectivement, dans l'analyse de ce qui va pas dans son jeu, il est progressé, c'est une évidence. Après, je trouve qu'il y a quand même des signes dans ce premier set qui me font dire que, un, bah, nerveusement, il est un petit peu plus tendu que ce qu'on imaginait et que ce qu'il a bien voulu nous dire depuis Rome. Et puis, contre Thomas Bellucci, j'ai l'impression que, même si, effectivement, on voit un bon Richard Gasquet, il peut montrer des faiblesses que Thomas Bellucci saura convertir lui et que n'a pas su convertir peut-être Marcel Granollers.
Ça c'est vrai, mais ça sera sans doute plus la faute de l'adversaire Thomas Bellucci que de Richard Gasquet lui-même. On va en parler juste après avoir écouté Richard Gasquet hier après sa victoire contre Marcel Granollers en 4-7 et 3 heures hein, quand même pratiquement de jeu. Richard Gasquet tout heureux de ce qui se passe en ce moment, heureux d'être sur le court, heureux de faire plaisir et heureux d'être qualifié forcément pour le 3e.
Je me suis fait plaisir, il y avait quand même beaucoup de monde sur le court, beaucoup d'enfants, tout ça, ça m'encourageait énormément. C'est quand même des énormes sensations quand tu gagnes à Paris, c'est toujours un peu spécial. Donc je suis content de pouvoir continuer dans le tournoi. Bah, il y a beaucoup de têtes de série qui ont perdu. On sait que c'est des matchs pièges sur terre battue. Il faut être fort physiquement. Tu peux jouer plus de 3-4 heures. Donc il faut être prêt mentalement aussi. Surtout après la perte du premier set. Donc vraiment tous les matchs sont durs. Donc je suis quand même assez content d'avoir gagné aujourd'hui. Je joue bien, j'enchaîne bien les matchs. Mais j'ai pas de blessures. Donc je suis content de la façon dont je joue aussi. Puis je me fais plaisir sur le court aussi. Donc on va essayer de continuer. Ouais, je vais surtout essayer d'aller plus loin, surtout essayer de battre Bellucci qui est un joueur difficile à jouer. C'est vraiment un très très bon joueur terre battue. Il faudra faire vraiment un grand match pour le battre.
Alors, ce Bellucci, il faut qu'on en parle parce que, en effet, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, et pour tout de suite situer le niveau qui attend Richard Gasquet au 3e tour, Bellucci, c'est un 8e de finale à Roland-Garros l'an dernier, battu seulement par Rafael Nadal, futur vainqueur. Et en 3-7 certes, mais difficilement, notamment dans le premier. Bellucci, c'est une demi-finale à Madrid avec un set d'avantage et un break contre Novak Djokovic avant un petit effondrement. Et Djokovic, c'est un très très bon joueur de terre. Djokovic. Bellucci, c'est un très très bon joueur de terre battue. Julien, c'est vraiment un 3e tour difficile qui attend Richard Gasquet.
Oui, parce que même s'il n'a pas eu entre guillemets les résultats escomptés entre l'année passée Roland Garros et cette année, il a bien stabilisé son jeu. Il est aux alentours de la 30e place. Place mondiale, gaucher, donc qui gêne énormément les adversaires. Maintenant, Richard a le jeu pour le gêner avec son jeu de variation, d'amorti, de venir un peu au filet. Mais tactiquement, Bellucci va essayer de le bloquer vraiment côté revers, très haut dans son revers, pour que Richard raccourcisse. Mais il faut prendre la partie du bon bout. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec Clément, c'est que voilà, il ne faut pas non plus qu'il se retrouve mené assez rapidement dans le match. Après, on ne peut pas non plus gagner tous les matchs très facilement et conclure toutes les balles de break qu'on peut avoir. Mais c'est sûr que voilà, ça va être un match difficile. Par contre, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que voilà, Richard monte tout doucement en pression. Il a vraiment dominé Stepanek. Il a un match un peu plus dur contre un terrien qui est Granollers. Maintenant, il joue Bellucci qui est encore un peu plus un terrien. Donc voilà, ça monte tout doucement en puissance. Pour moi, je vois passer quand même Richard, mais difficilement.
Ah, est-ce qu'on a un peu changé, je trouve, parce qu'avant, on aurait dit, voilà, Bellucci, attention. Moi, je reste très prudent. Alors, petit avantage peut-être pour Richard Gasquet, c'est que Bellucci est un gaucher, Myrtille Rambion, excellent en coup droit notamment, mais donc il va aller beaucoup sur la diagonale revers de Gasquet, et on sait que le revers chez Gasquet, pour le coup, il n'y a pas de souci.
Ah, moi, je pense qu'il va se régaler, Richard. Honnêtement, autant parfois j'ai pu être dur avec lui, avec vous, Eric, du coup, vu qui êtes.
Je le défends, je suis un des seuls à l'avoir toujours
l'agent, c'est l'agent.
Non, je ne suis pas l'agent, je suis un défenseur de ce jeune homme qui, je reste convaincu, pourra faire un truc une fois dans sa carrière.
Moi, je pense qu'il va se régaler sur ce jeu de gaucher de Bellucci, et je voudrais juste dire, tout à l'heure, vous égreniez les statistiques et les raisons de se méfier de Thomas Bellucci. J'ai envie de vous dire qu'on a en face Richard Gasquet, qui est non pas un demi-finaliste à Madrid, mais un demi-finaliste à Rome, et un garçon qui, non pas à inquiéter Novak Djokovic, mais a battu Roger Federer. Donc c'est pas mal non plus quand même.
Et Berdych. Bon, Berdych, depuis, Berdych, il a un peu disparu.
Voilà, mais c'est pour ça que je ne le citais pas, mais... Moi, je le sens bien, Richard Gasquet, sur ce coup-là.
Et c'est vrai voir que Thomas Bellucci, depuis le début du tournoi, très rapidement, il a eu deux premiers tours qui n'étaient pas faciles face à des joueurs solides, pas forcément les plus brillants, mais solides. Il s'est un petit peu rodé contre Andrei Golubev en gagnant en 4-7, 7-6 au quatrième. Et puis ensuite, je trouve qu'il a quand même fait une démonstration face à Andreas Seppi.
Ah, c'est un très bon joueur.
Il a gagné 1, 2 et 4. Voilà, preuve quand même qu'il est bien dans son tennis.
Et il est tête de série numéro 23.
Et qu'il est tête de série numéro 23.
Mais c'est vrai qu'on en rêve tous de ce huitième de finale potentiel contre la terreur du début de saison 2011, Novak Djokovic, qui, on en parlera tout à l'heure, a lui aussi un troisième tour test.
Faut déjà qu'il gagne.
Face à Juan Martín Del Potro, qui va être pour le coup particulièrement intéressant. Une dernière chose sur Richard Gasquet avant qu'on passe à Joe Tsonga et Gaël Monfils. Est-ce que vous avez vu hier, dans le dernier jeu du match contre Marcel Granollers, lorsqu'il se procure les deux balles de match d'un passing de coup droit croisé magnifique, j'ai vu un Richard Gasquet hurler. Une espèce de vamos aller, mais 2-3 fois avec le point, limite le geste à la Nadal. Moi j'avais rarement vu, Julien, un Richard Gasquet extérioriser autant son plaisir et sa hargne, quoi, sa rage.
Moi je vous avouerai que je l'ai vu plusieurs fois comme ça, mais c'est pas
en match par équipe.
Voilà, c'était qu'en match par équipe, quand on jouait à Jean Bouin avec le team Lagardère, où vraiment voilà, il s'accrochait, il nous montrait qu'il avait envie de gagner. Et sur les tournois, on le voit pas vraiment comme cela, mais en tout cas. Et je le trouve limite même encore un peu plus là que sur Rome ou Madrid ou même Monte Carlo. Donc moi je trouve ça vraiment bien. Il a peut-être besoin de s'extérioriser un peu. Et puis il faut dire ce qu'il est aussi. Hein. Il vieillit un peu, il commence à comprendre pas mal de choses. Et puis il sait que voilà, il est à Paris, il peut s'appuyer sur le public. Les gens l'aiment. Donc voilà, après c'est tout bonus.
Et dernière chose, je n'osais l'évoquer moi-même de peur d'être méchant, mais vu que nos camarades de l'équipe s'en sont chargés ce matin, je me permets de relayer ce petit avis de l'envoyé spécial Franck Ramella, qui est monsieur spécialiste Gasquet à l'équipe, qui le suit depuis de nombreuses années. Le titre de sa petite chronique à découvrir ce matin dans l'équipe, c'est « De Blicker a bien fait de s'effacer ». Je voudrais votre point de vue là-dessus, Julien, Clément et Myrti. Je le partage franchement à 200%. C'est vrai que ce duo Piatti-Grosjean a l'air de faire des merveilles, et le côté un peu moins paternaliste qui quand même encourageait Richard dans le côté tête basse, c'est, même s'il a apporté de très belles choses, Eric de Blicker, hein, c'est avec lui qu'il a fait 8e mondial ou 7e mondial et qu'il est allé au Masters. Julien, c'est vrai qu'on a l'impression d'un garçon qui s'émancipe.
Ouais, et puis ils étaient peut-être au bout aussi vraiment d'une... Après, Franck Ramella, il a entre guillemets raison de dire ça, oui et non. Dans un autre sens, on ne sait pas exactement quelles ont été les tractations, mais c'est peut-être aussi Eric de Blicker qui a conseillé Richard d'aller vers Ricardo Piatti. Donc là, ça serait un très bon coup aussi de la part de Richard Gasquet, d'Eric de Blicker, de l'avoir conseillé. Voilà. Donc après, maintenant, je trouve que c'est quand même un petit peu dur, même si c'est vrai que voilà, sur les dernières années... Eric avait toujours la main mise quand même sur Richard et il arrivait quand même pas à vraiment lâcher le bébé.
Il est là d'ailleurs.
Il est là, mais il est quand même bien retiré, donc ça tourne bien. Et puis mine de rien, Eric de Blicker, c'est un peu c'est Seb Grosjean en plus jeune, hein, quand même. Hein. Parce qu'il faut dire aussi qu'Eric de Blicker a amené.
Eric de Blicker, c'est Seb Grosjean en plus jeune.
Mais Eric de Blicker a quand même.
J'essaye de me représenter Sébastien Grosjean dans une vingtaine d'années. J'avais compris, mais j'essaie de me représenter Sébastien Grosjean un peu plus tard.
Non, mais.
C'est-à-dire qu'il aura le bronzage d'Eric de Blicker.
Les meilleurs résultats que Seb a pu avoir, c'était aussi avec Eric de Blicker, mine de rien. Donc c'est un peu la même mentalité, c'est un peu la même philosophie, plus Ricardo Piatti qui apporte peut-être aussi autre chose. Donc. Pour l'instant, ça marche bien, touchons du bois pour que ça dure. Parce que si ça se trouve, dans 3 mois, voilà, ça sera fini. Maintenant, c'est que le début, moi, je trouve, de cette aventure. Pour l'instant, tout tourne dans le bon sens. Maintenant, c'est dans la difficulté qu'on voit réellement si c'est une bonne entente, si tout se passe bien.
Et si Myrti et Eric de Blicker s'occupaient de Joe Wilfried Tsonga?
Mais arrêtez de dire n'importe quoi.
Non, je sais. Non, ça permet de faire une transition.
Il peut pas. Eric de Blicker, on rappelle que maintenant, il a quand même un poste important au... Comment on dit maintenant? Au Paris-Lagardère Racing. Sûrement. Enfin, au Racing, quoi. Vous voyez, voilà. Hein, il est un petit peu directeur...
Lagardère Paris Racing.
Et Joe Merci. Merci, Julien Varley. Il connaît tout. Il sait tout, Julien Varley. Il est introduit partout. Joe Wilfried Tsonga, lui, n'a pas besoin de coach. Il est au troisième tour. Pas il continue encore. À faire son petit bonhomme de chemin tout seul. Il a pas mal de potes, hein. Dans les tribunes, j'ai vu.
Il y a la famille. Hein.
La famille, il y a tout le monde. Hein.
La sœur, le frère, hein. Les copains. Bah oui.
Et pareil, il a la banane, Julien. Il a battu hier Andreev en 3-7. Match solide, accroché quand même. Andreev n'est plus le Andreev qu'on a connu il y a quelques années. Mais sur terre, son lift et son coup droit peuvent toujours faire mal. Joe Tsonga continue son petit parcours. Lui aussi, troisième tour. C'est un moindre mal. Et surtout, il a l'air de se faire un peu comme Richard, d'ailleurs, très plaisir.
Oui, je trouve vraiment dans la façon de jouer... C'était le match parfait. C'est qu'il a eu quand même pas beaucoup de balles de break pour venir gêner, et même de balles de set pour venir gêner Andreev. Il les a quand même faites. Et puis surtout dans la façon de jouer, dans son déplacement, il attendait pas, il essayait pas de faire du tennis de terre battue, être très loin alors qu'il joue un pur terrien. Voilà, il est venu vers l'avant, il a tenté, il a commis quelques erreurs, mais à la bout du compte, le ratio, eh bien, il y avait plus de coups gagnants que de fautes directes. Donc c'était vraiment positif. Et comme vous le dites, voilà, il a le sourire. Physiquement, il a l'air d'être très très bien, bondissant, véloce. Donc tout est parfait. Tout
surtout
roule
pour la danse pour, des pouces.
Ouais, tout roule pour Joe. Maintenant, on y viendra peut-être un peu plus tard. Il joue Stanislas Wawrinka,
ouais,
qui est quand même autre chose.
Alors, premier test ou pas, sans doute sur le papier. J'ai envie de vous dire que c'est encore largement jouable parce que Wawrinka, bon, ça reste un bon joueur, mais cette année, il est quand même clairement en dessous. Moi, j'ai vu son premier match contre Augustin Gens. C'était quand même vraiment pas terrible. Bon, hier, c'était un peu mieux. Mais bon, il jouait Chourel, donc il a quand même eu un tirage, pour le coup, très favorable lors des deux premiers tours. Mirti, Wawrinka... il est prenable, largement.
Wawrinka est prenable. Ils sont très très amis, les deux. Et Stanislas Wawrinka plaisantait en
voisin,
disant...
Voisin, peut-être
voisin en Suisse également, c'est vrai. Ça ne vous aura pas échappé. Et Stanislas Wawrinka plaisantait en disant que bah, voilà, ça fait deux années que Joe le bat lors de cette exhibition qui se passe à Rueil-Malmaison avant le début de Roland-Garros. Maintenant, Wawrinka, on peut penser que lui aussi va hausser son niveau au fur et à mesure que l'adversaire devient meilleur.
Ouais, mais il sait que de toute façon, au tour suivant, il a perdu le tournoi, donc peut-être qu'il ne va pas s'accrocher comme une bête, parce qu'il sait que de toute façon, après, il a perdu au tour suivant, puisqu'il joue Dieu le Père, donc...
Roger Federer.
Ouais, Roger Federer.
Non, mais Joe Wilfried Tsonga, ça va être quand même un premier vrai test face à un garçon qui est un joueur de terre, quand même. Wawrinka, c'est sa surface de
vainqueur de Roland-Garros Junior, on le dit chaque fois.
Vainqueur mais... de Roland-Garros Junior, effectivement. Mais vous savez, avec Julien Verlet, nous commentions ce match hier soir sur RTL L'Équipe. Et du coup, on a pu discuter de cette nouvelle attitude un petit peu de Joe Wilfried Tsonga, qui a l'air bien, qui a l'air un petit peu tout content de se retrouver tout seul, qui regarde les matchs, ses matchs en DVD maintenant. Mais on discutait du fait qu'il ne resterait probablement pas très longtemps tout seul, et que oui, il était tout seul, mais qu'il bénéficiait quand même de pas mal de conseils. Et figurez-vous que Julien Verlet nous a lâché, vous savez, ce qui se murmure dans les années de Roland-Garros quant à son prochain coach.
Julien, je crois qu'Eric est un peu au courant. Ben non, mais avec mon ami.
Allez-y, Julien, avec l'ami de Julien Verlet. Sven.
C'est à Julien de le
Sven
dire.
Sven,
non, bah, c'est ce qui se dit. Sachant qu'en plus, ils ont le même équipementier. Bon, peut-être
mais il préfère pas les filles.
Qui?
Sven. Enfin, coacher les filles, je m'entends.
Il a faites attention à ce que vous balancez.
Non, parce qu'après, vous allez me prêter encore des propos.
Ah, bah oui, mais c'est voilà. Fait. Ça
non, il préfère coacher des filles en général, non, Sven.
Bah, il a quand même coaché aussi Verdasco quand il a fait finale à,
ouais, c'est vrai, c'est vrai.
À l'Australian Open, hein, c'est mine vrai. De rien. Mais voilà, c'est ce qui se dit après maintenant.
Il fera des économies sur la Gomina avec ton gars. Hein.
C'est clair.
Ça coûtera moins cher.
Qu'est-ce que c'est
ça coûtera moins cher qu'avec Verdasco, c'est ça, pour la Gomina, je voulais dire.
Oui, mais bon.
C'est tout.
C'est un très bon coach.
En tout cas, si je peux apporter un petit bémol.
Mais
moi,
bien sûr.
Apportez votre bémol, Clément.
Au niveau Gomina, Clément Grèze, il.
Non, alors il a jamais mis un pet de Gomina dans les cheveux.
Il pourrait. Vous avez le côté ténébreux brun de Verdasco.
Sans doute.
Qui pourrait.
Exactement. Il faudrait savoir, un Nadal ou Verdasco, mais je peux pas faire les deux.
Un peu les deux, hein. C'est pas très différent non plus.
Non, bémol, moi, ce que je vois de la part de Joe Wilfried Tsonga depuis le début de ce tournoi, effectivement, l'attitude est bonne. Néanmoins, je reste sur l'image de son premier tour face à Janajec. Certes, forcément, c'était en face de lui un joueur qui présentait pas franchement de gros dangers, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui Joe Wilfried Tsonga ait dans son jeu une palette suffisante pour aller un petit peu plus loin.
Et face à
Stanislas Wawrinka, bah, j'ai l'impression qu'avant il était un petit peu plus décisif, ses coups faisaient plus mal, et là j'ai l'impression qu'il lui faut plus de coups de raquette pour faire la différence.
Alors, j'ai une petite question.
Dis-moi.
Quel match exactement tu as vu de Joe?
J'ai vu le match contre Janajec et j'ai vu un set.
Non, mais même avant, parce que tu dis avant, il avait des coups plus décisifs. Quand?
Non, mais je sais pas, par exemple, c'est vrai que c'était plus souvent en indoor ou
à
Bercy.
C'est pas la même surface.
Non, c'est pas la même surface. Mais j'ai quand même l'impression qu'avant, il faisait plus mal. C'était plus fort, l'adversaire était vraiment en difficulté, était tout le temps sur la défensive. Là, j'ai l'impression que sur terre battue, et notamment dans cette rencontre face à Janajec, il a vraiment profité du fait que son adversaire était de moindre qualité, disons les choses comme ça, et voilà, être face à un joueur qui aura peut-être la possibilité de l'agresser, et ben il sera en difficulté. Et ouais, je me demande si ce ne sera pas le cas déjà contre
Stade. Mais dans un autre sens, qui dit qu'il ne gère pas un petit peu aussi?
Ah, mais il gère peut-être.
Ce qui est encore plus
intelligent.
Il a un huitième de finale à aller chercher contre Roger Federer, en tout cas, Joe Wilfried Tsonga. Si on a du Gasquet Djokovic et Federer Tsonga en huitième, ça serait pas mal. Et puis on compléterait, tiens, j'ai envie de vous dire, entre Ferrer Monfils pour le troisième huitième dans cette partie basse du tableau. Ce serait pas mal.
C'est rarement fils, mais moi j'y crois pas beaucoup à Gaël
Monfils. Alors là, je peux vous dire que si un fer mon fils il se fait étrier.
Vous ne croyez pas beaucoup en Gaël Monfils?
Non,
eh ben, attaquons le dossier
Monfils. Pas Steve,
mais vous rigolez ou quoi? Ouais. Alors, Gaël Monfils, pour aller en 8e de finale, excusez-moi, il faut un peu de chance aussi dans les tournois du Grand Chelem. Son tirage au sort pour aller en 8e, c'est Bjørn Faa au premier tour, issu des qualifications. Guillaume Ruffin au deuxième tour, invité par les organisateurs, et Steve Darcis en troisième tour, issu des qualifications. Si avec ça, tu vas pas en huitième de finale, c'est qu'il y a un problème, Julien. Il a un tableau juste d'enfer. Quoi.
Bah non, mais ça, c'est clair. C'est
sûr, je pense qu'il saute, moi.
Contre Darcis.
Steve Darcis, il a presque gagné un grand chelem, mais il en a 5 matchs.
Est-ce que vous voulez qu'on parie en direct, Clément Grèze, tous les deux?
On peut ne pas parier grand-chose, ça m'arrangerait, mais...
Ah bah oui, parce que
vous avez déjà peur de perdre. Tiens, mon petit.
Vous avez déjà peur de perdre.
Et Gaël Monfils n'est pas du tout convaincu.
Non, mais Gaël Monfils joue mal, mais je peux vous dire que Gaël Monfils sera... Allez, je mets une piécette et même un gros bifton qui sera en 8ème de finale.
Ah, je vous suis, tiens.
Ouais, merci. Ouais, non mais
moi, je fais tapis même.
Il tapis.
Ah ouais. Ouais, tapis. Non mais il le sera sans doute et je vais évidemment pas suivre parce que mon jeu est pas très bon, mais honnêtement, ce qu'on voit de Gaël Monfils depuis le début du tournoi, tant dans l'attitude, je suis désolé. Bah,
c'est du Gaël Monfils.
Ah, mais on est d'accord hein.
C'est mauvais.
Julien,
c'est pas top night,
c'est
pas
Gaël Monfils. Il y a des moments, faut savoir comme on dit de temps en temps, savoir bien mal jouer. Tout simplement, c'est ce qu'il fait sur les deux premiers tours.
Non, alors c'est vrai que ce qui est agaçant, c'est qu'il a très mal joué ses deux premiers tours. C'est gagne, bon, voilà, il gagne en 4-7 les deux fois, bon, contre Faux et Ruffin. Mais ce qui est agaçant, c'est qu'à chaque sortie de match, et ça depuis le début de Monte Carlo, il y a 6 semaines maintenant, Gaël Monfils nous dit « Ouais, c'est vrai que je suis ennuyeux à avoir joué, ça m'énerve, je voudrais pas jouer comme ça, j'ai tendance à trop reculer, comme je suis pas en confiance, comme je manque de rythme, eh ben je rentre dans une filière ultra défensive, je sais que je dois pas faire ça, mais ça fait toute la saison sur Terre, il aura fait que ça, Julien. »
Non, mais là, il nous dit que c'est pas ennuyeux, que c'est un peu méchant de dire que c'est ennuyeux.
Oui, tiens, on va l'écouter. Avant que vous... Oui, non, vous avez raison, Myrti, écoutons-le. Il préfère préciser en termes de vocabulaire son style de jeu, Gaël, mon fils.
Eh ben, je suis, on va dire... tranquille. Parce que ennuyeux, c'est quand même méchant, parce que je fais quand même des bons points, je pense. Laborieux, c'est pas gentil par rapport à mon adversaire, je pense, parce que eux, ils se donnent vraiment beaucoup de mal et voilà, je pense qu'ils jouent bien quand même, il faut quand même les respecter. Donc c'est sûr, parce que ça fait que je vais être hautain, mais j'espère quand même gagner mes matchs. Je suis 9e mondial quand même, donc j'espère quand même gagner mes matchs, même si je joue pas très bien, de faire honneur à mon classement, quoi.
Gaël, 9e mondial, un bon tournoi, un très bon tournoi, Roland-Garros, ça serait quoi?
Bah, en fait, la question elle est simple, c'est qu'à chaque fois que je joue à Roland-Garros, y a le très bon tournoi, c'est pas, on peut pas dire un très bon tournoi, le rêve c'est de gagner Roland-Garros. Voilà, c'est à chaque fois que je joue à Roland-Garros, j'ai pas d'objectif, c'est juste mon rêve, c'est de le gagner quoi. Pour l'instant, je suis très loin, oui, mais je sais que j'ai des capacités pour changer ça très vite quoi.
Gaël, mon fils, il est capable de tout, Julien Varlet, Gaël, mon fils.
Bah, il l'a déjà démontré, mine de rien. Mais après, Gaël, c'est un peu le style de joueur aussi qui, au fur et à mesure des matchs, plus l'opposition va être dure, mieux il va jouer, plus il va réellement hausser son niveau de jeu. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, il a quand même pas de rythme. Il a très peu joué depuis le début d'année. Puis à un moment ou à un autre, bah, voilà, ça se voit. Hein. Donc il peut pas non plus inventer des coups. Et quand on est comme ça dans ces conditions-là, on essaie de se retrouver dans sa zone de confort, qui est la sienne, d'être voilà, un gros défenseur, d'essayer de couvrir un maximum sa ligne de fond de court et de faire ce qu'il peut, mais peu.
En 20 secondes, Clément Grèze, puisque vous allez perdre votre pari sur mon fils, Simon Chardy, est-ce que le 4e mousquetaire Simon rejoint les 3 autres au 3e tour?
Bah, normalement, oui, mais là encore, je rejoins assez l'avis de Gilles Simon. Jérémy Chardy est tout à fait capable sur un match de tout exploser. Le problème, c'est qu'il a déjà fait son bon match face à Dimitrov. et comme il est très très irrégulier, ça ne m'étonnerait pas qu'il passe désormais en mode mauvais match. Mais il faut se méfier pour Gilles Simon, qui, s'il passe ce tour, peut nous faire un très bon tournoi. J'aime beaucoup pour l'instant ce qu'il nous fait, Gilles Simon, dans l'attitude.
Voilà, et Jérémy Chardy, dont les problèmes avec Frédéric Fontan, son ancien entraîneur, sont peut-être en passe de commencer à se régler, puisqu'il y aura peut-être une conciliation entre les deux. Vous savez que ça avait posé beaucoup de soucis, notamment aux alentours du tournoi de Monte Carlo. Frédéric Fontan, qui est le coach désormais de Caroline Garcia, dont on reparlera dans la deuxième partie de l'émission. On parlera aussi et surtout des favoris, Nadal, Djokovic, Federer, fortune diverses pour les uns et les autres.
RTL L'équipe, en direct de Roland-Garros, Eric Silvestro.
Qu'est-ce qu'il y a, Myrti Rambion?
Mais j'écoute les petites musiquettes que nous met François, j'adore. Et il y a un touch me juste avant que vous parliez, ça m'a... Voilà,
c'est,
non,
ça.
C'est tout.
Ça vous a donné envie.
Oh, Clément.
Oh, pardon.
Clément Grèze.
Oh, non, mais excusez-moi, mais enfin bon.
Mais
bon,
enfin.
Je ne fais que saisir les balles au bon.
Ouais.
C'est ça.
Hein, voilà. Bah, attendez le deuxième rebond. Non, vous aurez perdu les choses.
J'aurais perdu. Jamais.
Ça ne va pas du tout. Bon, je voudrais qu'on s'intéresse.
Ah oui, on est poète-poète. Hein.
Un peu, ouais.
On se régale quand même, hein. On a la belle vie, il faut le dire.
C'est quoi c'est l'attraction du cirque cette année? C'est le géant Isner de
Metz? Non, l'attraction, c'est Aram Sarus, moi je vous le dis.
Non, mais arrêtez avec ça.
Non, bah, écoutez,
qu'est-ce qu'elle a
Bah, elle a une ceinture à la place de sa jupe.
Mais et c'est vous, vous en remettez pas, vous n'avez jamais vu une jupe courte de votre vie ou quoi?
Non mais si, mais pas à ce point-là et pas sur un tournoi féminin.
Bon, en tout cas, j'ai bien noté. Hein, pour la ceinture, j'irai voir ça tout à l'heure et j'essaierai de vous en trouver une dans les allées de Roland-Garros. Clément, vous en ferez un bandeau pour vos cheveux.
On va dire que je n'ai absolument rien entendu de ce que vous disiez la dernière minute.
Bon, je voudrais qu'on s'intéresse au cas Rafael Nadal, parce que ça agite quand même tous les observateurs ici à Roland-Garros depuis deux jours. Tout le monde se pose mille questions. Alors, ce 5-7 de Rafael Nadal au premier tour contre John Isner, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, je vous pose la question. Rafael Nadal s'est fait une petite frayeur, pas si grosse que ça quand même, au premier tour. C'est la première fois qu'il perd un set, et même deux pour le coup, au premier tour de Roland-Garros. C'était face à John Isner, victoire en 5-7, après avoir été mené deux manches à une. Julien Varlet, victoire en 4 heures. Inquiet ou pas pour Rafael Nadal?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, parce que déjà, il a gagné, première chose, qui est la base. Deuxième chose, il n'est pas non plus passé à deux points de la défaite. Donc non, je me fais pas de soucis. C'est Isner qui a fait un bon match, mais avec ce style de jeu qui est tellement dur à gérer comme un Ivo Karlovic. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'était pas du très grand Rafael Nadal. Il a reçu à être... intelligent, parce que c'était surtout aussi au retour où il a eu des soucis. Il a changé de position, il a commencé à reculer. Il a reculé énormément au début et après il a avancé, voilà, pensant que ça allait être mieux. Et c'était le cas. Donc non, je me fais pas du tout de soucis pour lui. Bien au contraire, je pense qu'il va en être encore un peu plus fort, parce qu'il a eu bien chaud. On a vu qu'il était très content d'avoir remporté le match. Tony aussi. Donc je pense qu'il faut, mettre... il n'y a pas de problème pour Rafael Nadal.
Quand même, Myrtille
Moi, je suis extrêmement inquiète pour Rafael Nadal. Alors, je ne vous cache pas. Mon petit cœur saigne. Moi, je trouve qu'il est quand même pas passé loin du tout de la correctionnelle face à John Isner. Alors, c'est vrai que son jeu le génère, Rafael Nadal, en particulier le gros service. On a vu, là, avec en plus les nouvelles balles dont on parlera peut-être, j'avais l'impression que ça fusait encore plus. Enfin, c'était incroyable. Mais moi, j'ai très peur pour Rafael Nadal, parce que je ne l'ai toujours pas vu au meilleur, au sommet de son art. Je ne l'ai pas vu bien jouer. Alors, ça reste évidemment exceptionnel. Mais surtout, je sens que pour la première fois, dans la tête... Il est inquiet, Rafael Nadal, il n'est pas en confiance et on le sent agacé.
Petite question,
il n'est pas là, quoi.
Petite question du côté du Langlen. Est-ce que vous pouvez me donner le palmarès de Rafael Nadal cette année sur terre battue?
Oui, victoire à Monte Carlo, victoire à Barcelone, finale à Madrid, finale à Rome.
D'accord.
Non, mais on ne l'a pas vu bien jouer comme, avant. Ben oui,
non, mais
n'empêche que ce n'est pas le grand Rafael Nadal.
Alors moi, je suis d'accord avec Myrtille.
C'est pas tant dans les résultats, c'est en effet dans l'impression qu'il laisse sur le court. Il joue souvent court, justement. Il est moins dominateur, on le sent plus anxieux.
C'est très simple, par rapport aux autres années. Tu représentais Rafael Nadal au début d'un tournoi de Roland-Garros les années précédentes. Il arrivait avec un statut quasi invincible sur terre battue dans les tournois préparatoires. Il avait la super attitude, il jouait extrêmement bien, il était indéboulonnable, il était imbattable. Bref, voilà, c'était ça Rafael Nadal. Aujourd'hui, Rafael Nadal, qu'est-ce qu'on constate? Il a effectivement peu perdu, mais il a perdu. Il a perdu surtout tout le temps contre le même joueur, ce qui fait qu'on se pose la question du statut de favori ou pas de Rafael Nadal pour Roland-Garros, ce qui est déjà en soi une révolution à l'approche de la deuxième levée du Grand Chelem. Et en plus, il nous propose un premier... Enfin, il perd ses deux matchs contre Novak Djokovic en proposant à nos yeux, à tous, pas le meilleur tennis de sa carrière, et un tennis en tout cas qui ne lui permet pas plus de battre Novak Djokovic. Et il arrive sur ce Roland-Garros avec un premier tour où il n'arrive pas à maîtriser certains bons joueurs. C'est un joueur chouin à jouer, mais John Isner, où il perd 2-7, il est mené de manche à une. Certes, il se rebelle, mais il ne présente pas un visage, ni une attitude, ni un jeu qui sont ceux d'un numéro 1 mondial qui s'avance en grand favori de Roland-Garros. Donc évidemment, on ne doit pas s'inquiéter pour Rafael Nadal, qui est numéro 1 mondial, qui sera sans doute en finale de Roland-Garros. En revanche, est-ce que ça doit faire de Rafael Nadal le favori de Roland? Eh ben moi, je dis non, pas après tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison sur terre battue.
Alors Julien, Myrtille, Clément, je voudrais également préciser quelque chose. Alors c'est vrai que perdre deux tie-breaks contre Isner, quand on sait que le tie-break c'est un peu une loterie avec un gros serveur, c'est pas la chose la plus importante. D'ailleurs, Nadal l'a dit après coup: quand j'ai gagné 4ème set, j'étais soulagé au début du 5ème, parce que je savais que quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de tie-break dans le cinquième. Donc quelque part, ça m'a reboosté. Et en plus, il break très tôt dans le cinquième. Moi, ce qui me gêne plus, Julien, c'est que c'est un garçon qui, en ce moment, n'arrive pas à garder la main mise sur les matchs quand il l'a. Contre Isner, il mène quand même 1-7-0 break. Donc il doit... Normalement, il a un break d'avance. Donc même si Isner gagne tous ses jeux de service, ça doit faire 2-7-0. Et c'est pas la première fois qu'on voit Rafael Nadal lâcher prise alors qu'il est devant. Et qu'il n'arrive pas à enfoncer le clou, et ça, c'est un peu nouveau.
Oui. Non, excusez-moi, parce qu'on vient de voir un point assez exceptionnel sur le central, donc voilà.
Bandeau. La ceinture.
La ceinture.
Voilà. Mais
la
bon.
Ceinture. Regardez beaucoup la ceinture, non, je trouve.
Après,
sur le,
vous avez frère. Raison. Et c'est la force des meilleurs joueurs mondiaux. Et ce que fait très très bien Rafael Nadal, Novak Djokovic actuellement, c'est que quand il mène 4-3 ou qu'il a fait un break dans le set, c'est bouclé. Maintenant, ça tourne pas forcément actuellement comme il le souhaite Rafael Nadal, mais moi je vous dis, je ne me fais pas de mouron pour lui, il va jouer de mieux en mieux dans ce Roland-Garros. S'il a pas de pépin physique, il va jouer de mieux en mieux.
Toute petite parenthèse avec Myrti, parce que vous nous avez tellement parlé de la ceinture de Arantxa Rus qu'on est allé voir, du coup, quand même sur nos écrans de contrôle. Déjà, c'est pas une ceinture, Myrti.
Bah non, c'est à peu près la même tenue que Maria Kirilenko.
Et que pas... c'est Anna quand même Ivanovic. Très court. Hein.
Mais c'est court, oui, mais c'est pas non plus. C'est pas ce que j'appellerais une ceinture.
Non,
vous
non, vous devez revoir votre vocabulaire,
c'est,
messieurs.
C'est très très court.
Je pense qu'on est un petit peu trop avancé dans le tournoi et que vous vous énervez un petit peu, messieurs.
Non, non, c'est quand même court.
Allez,
court.
Revenons enfin, à nos boutons. Rafael Nadal, est-ce que. Alors, il y a quelques semaines dans cette émission, Philippe Bouin, notre. Éminent confrère, ex-confrère de l'équipe, qui d'ailleurs signe une très belle chronique dans le quotidien du tournoi de Roland-Garros, si vous venez, n'hésitez pas à la lire, était venu dans cette émission et nous avait parlé du syndrome du nombre de balles à frapper dans une carrière, où il expliquait notamment, pour quand on parlait de Roger Federer, mais aussi un petit peu déjà pour Rafael Nadal, qu'on a un nombre limité de balles à frapper dans sa carrière au plus haut niveau en termes de concentration. Et cette idée de Philippe Bouin a été reprise, ou du moins partagée, par Mats Wilander dans sa chronique d'hier, à savoir qu'il trouve que Rafael Nadal n'a plus la concentration extrême qu'il a pu avoir par le passé, et que ça, c'est quand même l'usure du plus haut niveau, de jouer tout le temps des grands matchs, de jouer tout le temps pour gagner, depuis des années. Julien, il y a une petite usure de ce côté-là.
Après, c'est même s'il reste... Moi, je trouve que vous êtes dur, il est quand même numéro un mondial.
On cherche des petites explications.
Après, mais automatiquement, vous, quand vous prenez pas de vacances et que vous travaillez pendant 5 ans et que, à un moment...
Là, il est beaucoup moins bon.
Je suis une machine.
Non, mais voilà, tout le monde s'use un petit peu. Ouais. Maintenant, voilà, il essaye d'adapter son jeu. Et automatiquement, en plus, sa façon de jouer qui est quand même très, très, comment dire... énormément sur le physique et sur l'endurance... automatiquement il va s'user un peu plus rapidement qu'un joueur comme Rodolphe.
Quand Roger Federer avait évoqué il y a quelques années... Quand Roger Federer avait évoqué le monstre qu'il avait créé lui-même, c'est un peu pareil pour Rafael Nadal sur terre battue. En gros, il a créé un monstre imbattable sur terre battue, et c'est dur à porter tous les ans, toutes les semaines, bien tous sûr. Les jours, tous les matchs, année après année.
Dès que vous montez sur le terrain, vos adversaires n'ont qu'une envie, c'est vous en mettre une. Hein. Donc automatiquement, voilà, c'est sûr que vous avez beaucoup de pression, vous avez énormément d'attentes, et de toute façon, plus ça vient, plus faudra s'attendre à ce que Rafael Nadal perde.
Hein. Est-ce que, pour finir sur Rafael Nadal, Andújar aujourd'hui, un Espagnol, filière classique comme lui, mais tout en moins bien, c'est le match idéal pour se rassurer ?
Ouais, pour se lancer vraiment dans le tournoi, parce que pour moi, le match d'Isner, ça compte quasiment pas, parce que c'est mentalement, il compte énormément, mais tennistiquement pas, parce qu'il a pas pu avoir de repères, c'est pas du tout sa filière de jeu, c'est pas du tout lui qui imposait la filière, donc... Là, au contraire, contre Andújar, ça peut être le match qui peut vraiment le mettre dedans en frappant beaucoup de balles, pas mal d'échanges. Donc, ouais.
Alors, vous avez
faut voir qu'il a pas un tableau mortel, hein, Nadal aussi, et ce qui peut lui permettre
dur,
d'avancer.
Son tableau, attends.
Non, je le trouve pas très dur. Davidenko, c'est plus Davidenko.
Bah, Davidenko, s'il prend la balle tôt, qu'il est dans un bon jour, c'est piège.
Ouais, mais enfin.
Derrière, il y a Verdasco.
Verdasco, il est plus d'accord. Verdasco.
Derrière, il y a Söderling.
Non, derrière, il y a Gilles Simon ou Söderling.
Ouais, donc Söderling.
Enfin, bah, je suis pas sûr.
Non, mais potentiellement, on va dire théoriquement. Ouais. Voilà. Et derrière, il y a Murray. Excuse-moi, tu veux quoi comme tableau plus difficile ?
Je trouve pas ça fou.
Ah bon ?
Je trouve pas ça fou. Je trouve que Söderling, c'est certes un joueur contre lequel il a un problème. Mais...
Ouais, bah, je peux dire, il est sous nos yeux en ce moment et Roland Garros l'inspire. Hein. Je peux te dire
ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a l'aspect Roland Garros, c'est incroyable. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Söderling, il est chez lui à Roland Garros maintenant. Il a réussi à créer un joueur de tennis qui joue bien à Roland. Alors que les semaines précédentes, Roland, on peut pas dire que Robin Söderling nous ait donné toutes les garanties.
Et pour le coup,
il a quand même gagné 3 tournois cette saison.
Ouais,
il
mais
a
en
fait...
début de saison, après, il a appris la
ouais mais bon mine de rien sur Rome et Madrid il fait encore quart de finale ce qui est pas non plus voilà quoi bon, ouais. Après,
mais non, il a pas eu un gros résultat mais l'an dernier c'était pareil hein. Donc attention à lui et puis on y reviendra dans quelques minutes. Je pense que les balles sont idéales pour un joueur comme Robin Söderling.
Alors justement les balles
attends juste avant de finir on parlait mentalement et tennistiquement de Rafael Nadal. J'ai envie de vous poser la question quand même physiquement et notamment pour parler de Novak Djokovic et Roger Federer. Nadal a déjà passé 4 heures sur le court pour son premier match. 4 heures, c'est même pas la durée des deux tours, ni de Roger Federer, ni de Novak Djokovic. Ça va compter, ça, Julien, à un moment ?
Oui et non. Parce que si on regarde le temps effectif, il n'y a pas dû avoir des échanges trop trop longs.
Mais les autres, encore moins.
Mais il a puisé mentalement. Mais non, je me fais pas de... Sincèrement, je pense que... Alors après, peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas science infuse, et j'espère pas me tromper, mais je me fais pas de mon pour lui, vous inquiétez pas.
Bon, pour Djokovic et Federer, en revanche, Myrti, c'est la promenade, hein. Il serait temps qu'on joue vraiment au tennis, quoi.
Ouais, ça prend... Mais juste, Rafael Nadal, allez le voir un petit peu à l'entraînement, ici, si vous avez l'occasion. C'est pas joli joli, il s'agace, même les échanges sont assez vifs avec Tony. Il a pas du tout la même tranquillité que les autres années. Mais quant à Federer et à Djokovic, effectivement, alors là, petite promenade tranquille. Djokovic, en plus, hier, il a même pas joué un match complet. Anescu a abandonné. Eux, ils ont sauvé de l'énergie et c'est toujours bon à prendre en première semaine. Hein.
Ouais, Djokovic, il est dans des conditions idéales. Juste un dernier mot sur Nadal pour finir. Je pense que ce garçon, contrairement à ce qu'on croit, est un garçon anxieux. Est un garçon stressé, est un garçon qui a besoin de se rassurer et de sentir qu'il joue bien pour pouvoir bien jouer.
Mais bien sûr.
Et là, il n'est pas encore rassuré et donc il, voilà, il est.
Regardez tout ce qu'il met en place sur le court, oui. Ses bouteilles, tout est réglé au millimètre, quoi. Donc bien sûr que c'est un garçon.
Alors que Djokovic, il est sur son nuage, tout simplement. Je viens voir les. Il peut se passer n'importe quoi, de toute façon tout va bien. Il mixe aux platines de Bob Sinclair le samedi. Il va faire son anniversaire à l'ambassade de Serbie le dimanche. Il gagne en 3-7 le lundi. Il va se promener sur les Champs-Élysées. T'as l'impression que rien ne peut l'atteindre.
Non mais c'est clair, là tout tourne dans le sens de Novak Djokovic. Après maintenant, à un moment ou un autre, il va avoir une petite baisse où ça va aller un peu moins. Ce sera là. Et on verra comment il va gérer ce moment-là. Mais c'est sûr que moi je trouve que par rapport à toutes les sollicitations qu'il a en plus de ce qu'il a à faire sur le terrain, il gère quand même plutôt pas mal.
Mais il en a peut-être besoin finalement de ces sollicitations, c'est son exutoire quoi pour l'instant.
Il y a quelque chose que je trouve fascinant quand même dans cette affaire, c'est qu'on parle quasiment plus de Roger Federer.
Mais si, on va en parler.
Oui,
mais
on va
Roger
en parler.
Federer, il a joué Maxime Teixeira.
Oui, non mais bien sûr, on en parle quasiment plus. C'est-à-dire que là, ça fait 45 minutes, 50 minutes que l'émission a commencé. Et si on a dû faire 30 ou 40 secondes sur Roger Federer, alors certes, c'est le début du tournoi, mais enfin, on a grosso modo parlé des favoris. Plus
et des Français, non mais,
oui,
pour
non, mais bien
Français
sûr.
Sont bien là au troisième tour.
Sauf qu'en fait, mais ça signifie quand même quelque chose, qu'on veuille ou non. Ça signifie que Roger Federer, aujourd'hui, il ne fait pas partie des favoris. Et à l'heure de pronostiquer sur le probable quart entre David Ferrer et Roger Federer, bah, je suis à peu près certain que la plupart d'entre nous mettront une petite pièce sur David Ferrer.
Ouais, mais ce sera Federer.
Par contre, pour parler, parce qu'on est parti sur Federer là où
on peut, mais non, finissez sur Djokovic.
Bascule.
Hein.
Non, mais Djokovic, moi j'ai tout dit.
Vous avez tout dit sur Djokovic. Vous êtes sûr et certain?
Bah oui. Ouais.
Si, moi je voudrais encore vous dire un truc sur Djokovic. Hier, en conférence de presse, après sa victoire sur Victor Anescu, quelqu'un lui a posé la question que je démangeais de lui poser depuis quelques temps. C'est qu'il nous parle un peu de ce fameux régime, de son nouveau diététicien, là, son nouveau médecin, qui lui a trouvé cette allergie au gluten, il mange plus de pâtes, il mange plus de pain, il mange plus de pizza, il fait 12 kilos tout mouillé, il court partout et il frappe plus fort que n'importe qui. Donc quand même, quel est ce secret? Et il a dit, c'est du domaine du privé, je ne réponds pas. Bon, ça pourquoi pas. Mais derrière, vous savez ce qu'il a dit derrière? Et je vais vous prendre un exemple. Beaucoup d'humour chez Novak Djokovic, c'est pour dire à nos auditeurs qui pensent que parfois il est un peu ennuyeux comme garçon. Et bien pas du tout, c'est un garçon plein d'humour. Il a dit, je vais vous donner un exemple. C'est comme ma copine, ben, je peux vous dire qui c'est, je vous donne son identité, mais je vais pas vous dire ce que je fais avec. Et ben pour mon régime, c'est pareil. Je fais un régime, je vous donne l'identité de mon médecin. Non mais, je trouve que c'est un exemple très parlant, il en a pas parlé. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de secrets derrière cette préparation de Novak Djokovic.
Ouais.
Non?
Merci.
Bah en tout cas, il a l'air au top. Hein.
Est-ce que vous en posez vous des questions ou c'est moi?
Est-ce qu'il y a pas mal de sous-entendus dans
non,
ce
mais c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec Clément, ça veut dire quoi? C'est des sous-entendus.
Ça veut dire
là.
Que. Bah écoute, attends, on nous bassine depuis des années, manger des sucres lents avant un effort,
manger des pommes.
Non, mais manger des pâtes avant un match, 3-4 heures avant, le sucre lent la veille, etc., etc. Lui, il te fait l'inverse de tout ce qui se fait en diététique sur le sport. Et à l'arrivée, il a jamais été aussi fort physiquement, et il a jamais couru aussi longtemps, et il est jamais. Enfin, c'est quand même. Voilà, est-ce que ça remet tout en cause la préparation physique des sportifs?
Non, je crois pas, parce qu'il y a plusieurs façons de se préparer. Il n'y a pas qu'une seule religion en termes de préparation physique. On l'a vu et on le voit d'ailleurs dans le sport de haut niveau, dans les sports collectifs. Je suis pas certain. Après, il y a d'autres sucres lents, il y a d'autres façons de se préparer. Novak Djokovic, il avait peut-être besoin à ce moment de sa carrière de fonctionner différemment. Voilà. Après,
on va dire qu'il mange du quinoa. Et
On apprendra peut-être des choses un jour, mais je crois pas honnêtement.
Je crois
pas que ce soit le problème. Il est affûté comme on voit aucun aujourd'hui tennisman mis à part. Peut-être Rafael Nadal, affûté. Il est exceptionnellement fit.
Federer est toujours très bien affûté aussi. Donc Federer, vous, Clément, vous y croyez pas? Il joue pas mal.
Oui, il joue pas mal, mais il a encore des petites sautes. Des petites sautes contre Malcim Tetsera, ça lui permet quand même de gagner 3-0 et 2.
Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes tête de série 1 ou 2, vous préférez que Federer tombe dans votre partie de tableau pour la demi-finale qu'Andy Murray ?
Je suis en train de vous dire qu'on préfère jouer Roger Federer que David Ferrer ou Andy Murray, ouais, je pense.
D'accord. C'est encore un bon point pour Novak Djokovic.
Non, mais il faut voir son parcours à Roger Federer. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais depuis le début de la saison des tournois préparatoires sur terre battue, non seulement il n'a pas gagné, mais surtout il a perdu contre plusieurs adversaires. Ouais, il a perdu contre Melzer. Richard Gasquet, ouais. Il a perdu contre Jürgen Melzer. Donc ça veut dire quand même qu'il y a plusieurs athlètes, plusieurs types de jeux, plusieurs façons de jouer au tennis qui sont susceptibles de battre Roger Federer. Donc,
Nadal, Melzer, Gasquet.
Voilà, je me dis quand même que c'est un petit peu inquiétant.
Ouais. Julien ?
Oui, non, mais c'est sûr que moi je le donne pas comme favori ici à Roland Garros, c'est sûr et certain. Après, il y a aussi la question de volonté. Moi, je le sens pas forcément aussi combatif qu'à une époque. Maintenant, voilà, hier j'étais à côté de lui à l'échauffement. Quelqu'un lui a demandé un autographe sur Langlène. Il était hyper concentré, il a même pas signé, il a rien fait. Il est allé directement au vestiaire. Donc, ça prouve quand même qu'il est dans son tournoi. Et puis, pour être vraiment. Alors, pour commenter quand même beaucoup de matchs. Mais là, sur le Langlène, vraiment être très proche, je trouve qu'il a cette capacité à limite à tirer la balle à lui et cet œil et ce déplacement qu'il a. C'est pour ça qu'il s'en sort quand même pas mal dans certaines situations où il est un peu en difficulté. Mais pour moi, je pense qu'il est un ton en dessous d'autres.
Maxim Teixeira a quand même dit avec beaucoup d'humour hier, ça va beaucoup plus vite qu'à la télé. Hein, quand vous l'avez en face du cours, ça arrive quand même très très vite. Je voudrais qu'on évacue très vite le problème des balles avant de parler quand même quelques minutes des filles. Les balles, alors elles sont dures, elles s'usent vite, elles prennent pas le lift, mais elles vont vite, elles rebondissent. On entend tout et n'importe quoi. Julien Varlet, on va attendre quelques jours pour en savoir plus, que tout le monde ait joué dans différentes conditions.
Moi, je vous avouerai que chaque année, avant Roland Garros, je tape un petit peu. Les cours, c'est les mêmes que ceux du tournoi. Les balles, c'est celles du tournoi. Et chaque année, je trouve que les balles giclent et remontent énormément. Mais alors après, ça doit se jouer. S'il y en a un qui va vous dire que c'est trop rapide, l'autre va vous dire que ça gicle beaucoup trop. L'autre va vous dire qu'elle suce trop. L'autre va vous dire, bah non, ça va bien. Donc je veux dire, ça, c'est pour moi, c'est comme on dit l'expression dans Schnorr, c'est du pipi de Sansonnet, ça.
Du pipi de Sansonnet. Écoutez ce qu'en pense Guy Forget. C'est très court, c'est 20 secondes. L'avis du capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.
On entend tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pas encore tapé avec. Mais enfin, une balle dure et vive, a priori, ça avantage les lifters. Donc, a priori, Raphaël Nadal. Les balles, c'est les mêmes pour tout le monde. Même si, effectivement, il y a des fois des écarts d'une marque à l'autre, c'est quand même une bonne balle. Et on peut pas dire que c'est ça aujourd'hui qui va permettre à un des gros cracks d'avoir un avantage par rapport aux autres.
Voilà, pour Guy Forget, tout le monde et Lotti à la même enseigne sur les balles.
Eric, il ne faut pas oublier aussi que Guy est quand même sous contrat avec
la... J'étais exactement en train de penser à ça, je ne vais pas le dire, je ferai ma mauvaise
tournoi,
langue.
Donc,
mais...
Oh voilà, tout de suite.
Bah oui, mais attendez, ça compte aussi quand même.
Ouais, alors, pas parlé non, mais, filles, hein. Parce que moi j'ai beaucoup entendu quand même qu'elles étaient dures et vives, ça tout le monde est d'accord, apparemment, au moins là-dessus tout le monde est d'accord. En revanche, là où les gens ne sont pas d'accord, c'est si elle prend le lift ou pas. Et il y a beaucoup de gens qui estiment qu'elle ne prend pas le lift. Je vous rappelle quand même que le partenaire phare de Babola, hein, puisque c'est le nouveau fournisseur des balles, le sportif phare de Babola, c'est Nadal. Alors s'ils ont fait une balle qui prend pas le lift pour leurs propres joueurs, soit ils sont idiots, soit ils ont pas les compétences techniques, ce que je ne pense pas.
C'est ni l'un ni l'autre, à mon avis.
Donc ça doit être un petit peu étrange ce problème et on attendra pour en parler. Je voudrais qu'on passe aux filles en quelques mots.
Quelques secondes. Je rigole.
Alors, je sais pas, non. Emily Roy n'est pas là pour mettre une petite.
Alors, chez les filles.
Alors, chez les filles, Marion Bartoli d'abord, qui s'accroche.
Bon
ouais, s'accroche.
Ouais, non, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que.
Bonne attitude.
Ouais, dans son attitude, c'était vraiment très, très bien. Et puis, hier, elle est allée même. C'était un peu différent des années précédentes. Elle était même allée chercher un peu le public. Ouais. Et je trouve qu'elle n'a pas été bête là-dessus. Et puis, aussi, elle s'est bien battue. Elle fait le boulot.
Mais elle est blessée alors ou pas?
Mais non, elle n'est pas blessée. Bah
alors, si elle n'est pas blessée, je suis désolé, blessée. C'est quand même inquiétant de voir qu'elle a gagné en 3-7 contre Tatishvili et en 3-7 contre Govortsova.
La terre battue, c'est pas
mais Roland Garros, ça lui a jamais tellement réussi.
On est bien d'accord.
Elle rêve de progresser un petit peu plus chaque année ici.
Elle est tête de série numéro 11 quand même. Elle doit gagner, même si c'est sur terre battue, autrement qu'en 3-7 contre Govortsova et Tatishvili.
Non, mais pour Clément, faut que tout le monde, les plus forts, gagne 6-1-6-1 tous les matchs.
Vous êtes un fan de Navratilova, Graf, qui gagnait tous leurs matchs 0-1. Jusqu'en demi-finale.
Non, mais franchement, honnêtement, contre Gorgès, ce sera une autre paire de manches.
Ouais, Gorgès, j'attends de voir. Hein. Bon,
Vous savez que je suis très sceptique sur Gorgues.
Oui, vous êtes très très sceptique.
Ouais, ouais.
Hein.
Je suis très sceptique sur Gorgues, qui hier, je vous signale, est quand même passé à un jeu de la défaite.
Ah, mais elle l'a emporté.
Ouais, d'accord, mais contre Safarova, donc voilà. On verra. Et puis quand elle jouera contre Stoser, on en reparlera aussi de Gorgues. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours.
Ouais, bah, ce sera le 8ème de finale après.
Ah, donc vous pensez qu'elle va battre Bartoli?
Non, si, si. Ah. Mais je pense que Bartoli a sa chance. Mais
bon. En tout cas, dans cette partie de tableau haut chez les filles, ouais, il y a quand même Wozniacki, Kuznetsova, Stoser, Zvonareva et Schiavone, ouais, plus Jankovic.
Ouais, autrement dit,
il y a énormément de filles qui sont susceptibles de gagner Roland parce qu'il n'y a pas de favoritisme des tâches. On a Kim Clijsters sous les yeux depuis tout à l'heure. Faut pas le dire, mais on va le dire quand même. Kim Clijsters, elle a.
Si ça, vous pouvez le dire.
Non, mais alors Kim Clijsters, honnêtement, elle doit faire 60 fautes directes depuis le début du match.
Ouais, bah, comme d'hab.
En revanche, quand ça part tellement fort.
Mais elle a du mal à conclure.
C'est
on l'a
Kim Clijsters tout craché.
Ouais, non, mais elle est impressionnante.
Et Kvitova est en passe de se qualifier aussi.
Elle est bluffante. Et Kvitova, effectivement, est en passe de se qualifier face à Zane. Et je crois que c'est la petite favorite
de
Myrtille. Et en revanche, je crois que Julien, qui est à côté de moi, et qui lève les mains au ciel en disant: moi, j'ai un coup de gueule à passer.
Julien.
Ouais, non, alors ça a fini assez tard, mais c'était vers 21h30 hier. Zvonareva qui l'a emporté contre Lisicki. Fin du match, Lisicki s'est complètement effondrée, elle a fait un petit malaise. Et ouais, Zvonareva, poum, elle a mis la raquette dans le sac, elle est partie au vestiaire. Elle a même pas demandé quoi que ce soit. J'ai trouvé ça d'un bah, c'est même pas limite, c'est complètement nul.
Ah, mais ça,
c'est carte rouge.
C'est la vieille guerre froide, ça, vous savez, ça, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai qu'elle était peut-être soulagée d'avoir gagné. Zvonareva, elle a peut-être pas fait attention aussi, je sais pas. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu étrange. Il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on parle quand même de mon coup de cœur de ce début de Roland-Garros, c'est Caroline Garcia.
Garcia, mais bien sûr.
17 ans, la jeune française qui va aujourd'hui jouer contre Maria Sharapova, que l'on découvre 188e au classement WTA, qui a fait un très bon premier match, qui s'est qualifié donc pour le deuxième tour, qui a un tennis vraiment intéressant, avec des variations, des amortis, elle ne se contente pas de bourriner n'importe comment, elle a beaucoup d'ambition, elle a dit qu'elle visait de gagner Roland, pourquoi pas être numéro 1 mondiale. Est-ce que c'est un vrai bel espoir pour le tennis féminin français qui, on le sait, depuis les retraites de Maurice Mollois et toute la génération 79?
Bien sûr que oui, c'est vraiment même pour moi l'espoir, bien plus que Kristina Mladenovic. C'est simple, faites le test, vous allez vous asseoir au bord du terrain quand elle joue et vous allez juste vous constater que c'est différent, son jeu est différent. Elle sert très fort, elle peut servir à 200 km/h, elle est capable de changer de tactique en cours de match, qui est quand même super rare. Elle frappe bien, elle a la tête bien faite. Et elle prouve pour le moment que quand on lui donne des wildcards ou que quand elle parvient à se qualifier dans un grand tableau, eh bien, elle ne s'arrête pas là, qu'elle ne craque pas mentalement. Alors on espère simplement que les petits cochons ne vont pas la manger et qu'elle va continuer comme ça. On espère aussi pouvoir la lancer en Fed Cup. Ce serait pas mal peut-être de le faire maintenant que l'équipe de France est sortie
du groupe mondial. Oui.
Voilà, moi je fonde beaucoup d'espoir en elle. On espère que ça ira pas trop vite et qu'elle ne va pas... prendre la grosse tête.
Julien, les avis sont assez unanimes sur Caroline Garcia, mais on sent vraiment quelque chose chez cette jeune fille. Hein.
Oui, moi je trouve que sur l'aspect technique et tactique, elle a vraiment beaucoup d'armes. Maintenant, elle a pour une fois les coronnes, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup en France qui le font, qu'elle peut être numéro 1 mondiale et qu'elle peut gagner Roland Garros. Je trouve ça très bien.
Ça choque en France d'ailleurs, ça.
Ouais,
mais moi je trouve ça bien aussi.
Pour l'instant, elle démontre que c'est plutôt de son côté.
Ouais.
Ensuite, elle a Frédéric Fontan qui, pour moi, est un très bon entraîneur, donc qui va pouvoir bien l'aider, bien gérer. Comme Myrtille l'a dit, les petits cochons, il va essayer de les mettre de côté et essayer de bien gérer sa carrière. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau de la faire jouer sur le central aujourd'hui. Le Langlais n'aurait été peut-être mieux. Voilà.
Ouais, peut-être. Bon, on verra. En tout cas, c'est un des matchs.
Cela étant, ça va être un super match.
Ouais, ce devrait être un match très, très intéressant. Eh bien, messieurs, dames, c'est déjà la fin de Carrément Tennis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même endroit. On connaîtra à ce moment-là l'affiche des...
Quarts.
Non.
Demi.
Ce sera les demi-finales femmes et on en connaîtra l'affiche des demi-finales hommes également. Donc on pourra un petit peu plus disserter sur le futur vainqueur et la future vainqueur de ce Roland Garros édition 2011. On reste en votre compagnie. Steve Darcis, oui. On reste en votre compagnie, Clément Grasse et Julien Varlet.
Avec plaisir.
Une heure d'intégralité, vous allez pouvoir. Tranquillement nous raconter à Ransarus sa ceinture, Kim Clijsters, Kvitova, les fautes directes, vous allez pouvoir tout détailler.
Exactement, et on va se régaler surtout. C'est surtout
qu'est-ce
ça juste avant.
Qu'est-ce qu'on va voir, Clément?
Juste avant le début du Café des Sports, on va voir plein de belles choses.
Exactement.
Et voilà, ça, on vous l'avait promis.
Allez, bon direct, on vous rejoint.
On vous le garantit.
A tout de suite, les garçons.
Roland Garros, comme si vous y étiez. Open your window. C'est tous les jours sur RTL, l'équipe. Oh, you let it out.